les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Accès aux Drieux Combaluzier et Bâti Santé sur Radio Immo.
De retour sur le plateau ici au pavillon Dauphine et vous avez noté, c'est les rendez-vous de l'UNIS Grand Paris, on ne pouvait pas ne pas recevoir le président de l'UNIS Grand Paris. Bonsoir Olivier Safar.
Bonsoir Sylvain.
Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné d'Hélène Le Gall. Bonsoir Hélène Le Gall.
Bonsoir Sylvain.
Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes directrice générale pour les ADIL, l'information départementale sur le logement pour le département 75 et le département 94. 94, vous ne pouvez pas faire mieux. Puisque je suis aussi dans le Val-de-Marne, puisque j'habite Fontenay-sous-Bois. La thématique du jour, Hélène Le Gall, on le sait, c'est vraiment la dent creuse du moment, c'est de ce qu'on appelle la non-décence ou l'indécence des logements, notamment sur les étiquettes énergétiques classées G. C'est, selon les statistiques, environ 577 000 logements concernés. Sur ces 577 000 logements, il paraît qu'à Paris, il y en a 200 000 qui sont concernés. Partagez les mêmes statistiques ?
Oui, effectivement, le nombre de logements concernés est vraiment très important et donc le travail devant nous est également très important.
Comment avez-vous, est-ce que vous êtes saisi en ce moment ? Est-ce que le téléphone sonne dans les bureaux de l'ADIL avec des inquiétudes, tant au niveau des locataires que des propriétaires ? Parce que la mission de l'ADIL, c'est vraiment une information proactive auprès des locataires et des propriétaires. D'ailleurs, ce sont des informations, je crois, que vous délivrez gratuitement également.
Effectivement, nous renseignons autant les locataires que les propriétaires de manière gratuite, neutre et personnalisée. Pour en revenir donc, du coup au sujet du jour sur la non-décence des logements qui ont un DPEG, pour le moment, nous avons très peu ou peu, je dirais, de locataires et de propriétaires qui nous appellent, mais je pense que c'est un peu tôt encore, puisque l'interdiction date du 1er janvier, enfin a pris effet au 1er janvier 2025. Nous avons commencé à avoir quelques appels en fin d'année 2024, et je pense que les appels vont être plus importants au fur et à mesure de l'année. Alors, on a des inquiétudes de la part des locataires et des propriétaires, notamment l'inquiétude et l'information qui est demandée, c'est de savoir si les locataires sont concernés, si leur logement est concerné par cette interdiction. C'est également la même inquiétude de la part des propriétaires.
Quel type d'inquiétude ils ont ? Par exemple, prenons un cas. Le locataire, il vous appelle pourquoi ? Est-ce qu'il sait qu'il est dans un appartement en tant que locataire en étiquette G et il vous dit qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois écrire à mon propriétaire ou pas ? Est-ce que c'est vraiment le cas ? Parce qu'on se dit à l'heure où on a du mal, vous savez, le marché locatif est une catastrophe à Paris et encore pire dans le Val-de-Marne puisqu'il y a quasiment 50% d'annonces à location en moins. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui restent vraiment au bord de la route. Déjà trouver un appartement du style étiquette G, c'est déjà un miracle. Est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Alors c'est ce qui ressort essentiellement, effectivement, c'est que, dans un premier temps, les locataires cherchent à s'informer quelles sont les obligations du propriétaire. Pour autant, une fois qu'on les a informés sur ces obligations et sur les démarches qui peuvent être entreprises à l'amiable dans un premier temps, éventuellement au contentieux par la suite, leur inquiétude, c'est vraiment de pouvoir garder leur logement. C'est déjà, comme vous l'avez dit, c'est déjà été très compliqué pour un locataire de trouver un logement. Donc, quand il l'a, en fait, il veut le garder. Et il n'a pas forcément envie.
Et il ne se dit pas, je vais écrire au proprio.
Pas du tout.
Je vais saisir le tribunal de proximité pour l'obliger à faire des travaux, etc. C'est pas franchement le cas, on est d'accord.
Non, tout à fait. C'est vraiment l'idée de garder son logement avec plutôt l'inquiétude de recevoir un congé ou même voir de se faire expulser. On a eu ce type de questions-là. Est-ce que je vais me faire expulser de mon logement parce qu'il n'est pas en DPEG.
C'est hyper intéressant ce que vous dites.
Il est en DPEG, pardon.
C'est hyper intéressant, Hélène, et ça remet, j'allais dire, l'église au milieu du village. C'est très important ce que vous venez de dire, parce que en fait, souvent, certains professionnels ou parfois on peut se dire, oui, mais alors du coup, on va tomber sur des locataires qui vont être revendicatifs, etc. Là, c'est pas le cas. Hein. Là, ce que vous dites, c'est qu'il y a des locataires qui disent ben, j'espère que moi, au moins, je vais pouvoir rester parce que je voudrais pas que mon propriétaire, par exemple, donne congé pour faire les travaux, etc. C'est ça, en fait.
Oui, tout à fait. Voilà, il y a cette inquiétude. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que le propriétaire réalise les travaux. Et, oui. Et d'ailleurs, on a aussi ce questionnement de la part des propriétaires de savoir si, déjà, ils sont concernés par le fait que leur logement ne soit plus décent, par également savoir comment ils vont faire réaliser les travaux et quel est le risque en fait pour eux si jamais ils ne s'engagent pas dans des travaux.
Olivier Safar, vous êtes aujourd'hui président de l'UNIS Grand Paris, vous êtes la force motrice de l'UNIS, puisque vous êtes la plus grosse délégation, c'est normal, vous représentez 1/5 de la population française, avec les 8 départements d'Île-de-France. Vous réunissez tout l'écosystème dans vos réunions. Je vais vous demander de réagir sur ce que nous a dit Hélène Le Gall, mais également sur cette thématique. Alors, je sais que vous souhaitez toujours rester très proactif et constructif. Quel bilan vous dressez aujourd'hui? On vous a déjà posé la question dans une interview récente. Quel bilan vous posez quand on voit les orientations 1 après le discours de politique générale du Premier ministre, dont il est sorti finalement assez peu de choses, et cette obligation légale dans laquelle, effectivement, on est entré en plein dans l'interdiction des étiquettes G, et dans 3 ans, en 2028, ce sera les étiquettes F. Je voudrais également que vous nous parliez, etc., également des actions du député Inaki, Echaniz et Marchive, justement, sur la possibilité de sursoir aux travaux avec un engagement sur l'année qui vient.
Alors, première chose, je voudrais réagir effectivement sur les appels des locataires ou des propriétaires. Nous, les propriétaires, nous appellent quand leur appartement se libère. Pourquoi ? Parce que quand on a un appartement qui se libère, on fait le DPE et on transmet l'information au propriétaire. Et lui, quand il voit arriver un DPEG, première chose qu'il fait, c'est de nous appeler en disant « qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire des travaux ? Quel type de travaux je dois faire ?» Et ça, c'est aujourd'hui la demande que l'on a de nos propriétaires. Ils sont inquiets, d'abord parce qu'il faut trouver des entreprises et pouvoir faire les travaux. Deux, inquiets pour savoir quels travaux ils doivent faire pour sauter non pas une seule étiquette, mais au moins 2 étiquettes, parce que le but du jeu, c'est pas qu'ils se retrouvent en F ou en E, c'est qu'ils se retrouvent en D au minimum. Et troisième point, c'est combien ça coûte et comment je les finance. Et ça, c'est la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui avec nos propriétaires. Vous dire qu'on attendait une proposition de loi qui devait venir normalement avant le 31 décembre pour nous permettre de donner plus de délais, justement, pour pouvoir faire les travaux et permettre aux propriétaires
d'avancer. Oui, parce que l'esprit de la loi, c'est si le propriétaire manifeste son engagement de vouloir faire des travaux, on lui laisse un délai supplémentaire pour pouvoir le faire. Hein.
C'était ça sur la première loi, sauf que sur la première proposition de loi, sauf qu'aujourd'hui, elle a été modifiée, et que là, on est sur des possibilités de dire que bah, le propriétaire doit faire les travaux, mais les travaux qui sont à réaliser par l'immeuble et par la copropriété, et il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale les différents travaux à réaliser pour bénéficier justement d'un délai. Aujourd'hui, cette proposition de loi est encore en cours d'examen. Elle sera présentée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, mais je ne sais pas dans quel sens elle va être votée. Pourquoi ? Parce que on va avoir un vote de certains qui veulent durcir les choses en disant « quoi qu'il arrive, vous devez faire les travaux et vous n'aurez pas de délai ». D'autres qui sont volontaires pour que l'on donne des délais, mais uniquement dans certains cas. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui parce qu'on ne sait pas comment rassurer nos propriétaires et comment engager les travaux pour certains appartements le plus rapidement possible.
C'est un vrai sujet hein, pour les propriétaires, c'est même une source de stress important. J'ai envie de vous poser la question, je me demanderais comment réagissent les propriétaires également aux ADIL. Est-ce que ça va désinvestir ou pas ? Parce que la vraie question qu'on a posée structurellement sur le marché, d'ailleurs c'est une question que je poserai d'ailleurs tout à l'heure à Henri Buzicazo, est-ce qu'il y a-t-il ou pas un risque massif ? Vous savez, on a brandi le spectre des opérations. D'ailleurs, il y en a même certains qui ont dit ça va brader des biens immobiliers, ça va créer une forme de spéculation avec des personnes qui vont racheter à bas prix pour pouvoir requalifier, etc. Voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous guider dans ces méandres ?
Alors, est-ce qu'il y a des propriétaires qui souhaitent vendre parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens, que la rentabilité...
Est-ce que la crête sur ce type d'actif va augmenter ou pas ?
Alors, aujourd'hui, je ne la vois pas augmenter.
Okay,
bon, elle est déjà à un certain niveau pour ce type, effectivement, de biens, avec des propriétaires qui ont des revenus plutôt faibles et qui ne veulent pas s'engager sur ce type de travaux en disant bah, ça sera rentable dans 5 ans, 7 ans, 10 ans.
C'est le cas de beaucoup de petits propriétaires, Olivier
Safar. C'est le cas de beaucoup de petits propriétaires, mais certains ont effectivement une capacité financière à financer les travaux.
Oui.
Et eux, dans ce cadre-là, s'ils ont cette possibilité, ils vont le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent qu'ils construisent leur patrimoine et que leur patrimoine ira ensuite à leurs enfants.
Mais Olivier Safar, je vais parler de vos collègues qui sont dans le Perche. Hein, ou par exemple en Corrèze,
oui.
Par exemple au centre de la France, dans l'Est notamment par exemple, ou par exemple, je vais vous donner le prix d'un appartement à Mulhouse à 140 000 euros, un T3, le prix de la chaudière pour la remplacer, c'est le même prix qu'à Paris, on est d'accord ? Sauf qu'à Paris, un T3 vaut à peu près 650 000 euros,
650.
Et qu'un T3 à Mulhouse, il en vaut 160, voilà. Vous imaginez l'impact, voilà.
Ah mais c'est très clair.
C'est-à-dire que
on a un vrai écart.
Comment on peut expliquer, je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question, mais c'est pas évident de dire à un propriétaire, un petit propriétaire, vous savez, qui a un petit appartement à une heure de Bordeaux, à une heure d'une grande agglomération, avec un prix au mètre carré à 1200, 1600 euros du mètre carré et des loyers sur lesquels on est entre 6,50 euros et 11 à 12 euros maximum, alors que les coûts de travaux sont les mêmes. Est-ce que ça peut poser une question structurelle dans notre parc aujourd'hui ? Hélène Le Gall, vous avez un avis sur cette question ?
Alors c'est vrai que moi j'ai une vision un peu différente des choses puisque
de votre vision, ça
voilà
va être
effectivement
votre vision.
Nous on opère entre guillemets sur des zones tendues le prix des biens de toute façon justifie toujours ou très majoritairement, en tout cas, que les travaux soient réalisés. Après, j'entends que...
Vous êtes d'accord sur ce constat
on est dans, dans la logique.
Très bonne, de très bonne qualité. Elle vaut à peu près en moyenne, hein, je prends un prix d'achat d'installation d'environ 15 000 euros, par exemple. Pour une maison qui est en deuxième, troisième couronne à Paris, sur l'Île-de-France, ça peut s'entendre, bien évidemment. Mais quand on est, par exemple, à 500 km au milieu de la France, là... C'est compliqué quand même pour les propriétaires.
Oui, de toute façon, voilà, ce que recherche aussi le propriétaire, c'est un rendement de son engagement de mettre le logement en location. Et donc, si les travaux sont d'un montant trop important par rapport à la valeur du bien, forcément qu'il va se poser une question différente d'un propriétaire bailleur qui se trouve à Paris ou en tout cas dans les zones tendues.
Est-ce que vous êtes aussi vous-même avec vos homologues en lien avec les ADIL départementaux en France ?
Oui.
Est-ce qu'ils vous disent ce genre de choses ? Est-ce que vous voyez parfois vous qui pilotez finalement les plus grosses régions sur les 8 départements de l'Île-de-France, vous en pilotez 2 quand même avec une forte valeur ajoutée sur la valeur de l'actif immobilier. Quand vous comparez avec vos collègues qui sont en province, il y a vraiment des disconnexions justement sur ce type de sujet, ce que vous constatez ?
Sur ce type de sujet et sur d'autres d'une manière générale,
bien
puisque
sûr.
Effectivement les marchés sont complètement
absolument.
Différents.
Les marchés immobiliers, absolument.
Et donc, bien sûr, les sujets ne se présentent pas de la même manière que l'on soit à Paris ou qu'on le soit, je prends l'exemple de la Lozère, par exemple. Le sujet est complètement différent. Et ce sujet-là, en particulier, effectivement, est complètement différent.
Olivier Safar ?
On a un autre sujet, c'est celui de propriétaire-bailleur et de propriétaire-occupant. Parce que là, il y a encore une distinction.
Alors, je vais vous dire, les propriétaires occupants, ils peuvent se geler l'hiver, avoir chaud l'été, l'État n'en a rien à faire.
Ah, et on est bien d'accord, et c'est
fou,
bien
ça.
Dommage. Et non, vous savez que ça provoque des difficultés dans certaines copropriétés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui,
dites-moi.
Ceux qui sont volontaires pour faire les travaux, ce sont les propriétaires bailleurs. Alors qu'auparavant, la plupart du temps, les volontaires pour faire les travaux étaient les propriétaires occupants. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une, on va dire, des éclats de voix entre certains copropriétaires lors des assemblées de copropriétaires. Et globalement, c'est la difficulté. Et
les
certains copropriétaires occupants veulent se venger de ce que les bailleurs n'ont pas voulu voter les travaux à un moment et vont leur dire, écoute, désolé, mais ces travaux-là, on ne les fera pas cette année, on va reporter, c'est trop cher.
Non mais sans compter qu'il y a des copropriétaires occupants qui se sont appauvris. Littéralement appauvris.
Oui.
Et qui n'ont comme seul bien leur propre maison, leur propre appartement.
Leur propre appartement.
Et du style même être à Paris, puisque beaucoup ont acheté à Paris, par exemple, dans les années 80 ou dans les années 70, et qui n'ont plus les moyens aujourd'hui, parce qu'ils sont à la retraite, avec un revenu de remplacement de revenus avec une chute de plus de 30% pour certains, voire 40%. ça devient compliqué. Ce que je trouve intéressant, c'est de se poser aussi, de prendre un peu de hauteur, et également cette question, je la poserai à Henri Buzicazo tout à l'heure, c'est de se dire structurellement sur ces marchés-là, parce que vous l'avez rappelé, Hélène Le Gall, il n'y a pas un marché immobilier, il y a des marchés immobiliers, pour le rappeler. C'est un vrai sujet, puisque finalement, le locataire dans notre pays, il est le roi absolu, finalement, de l'arsenal. Non, mais attendez, c'est pas réactionnaire que de le dire, mais je me dis, voilà, un législateur qui est garant du bien public et du bien de ses citoyens devrait aussi se préoccuper, parfois, de ce délaissement des propriétaires occupants qui, eux, vivent dans une indécence énergétique absolue, réelle.
Alors, faut pas oublier qu'on a quand même des travaux en copropriété, en global. Ça existe quand même.
Vous avez un devoir de réserve, ma chère Hélène, peut-être, sur les certains sujets.
Non, oui, forcément. Après, moi, je rentre rarement dans ce genre de discussion.
Oui, je sais.
Pour autant, on disait tout à l'heure qu'il y avait des marchés immobiliers. Il y a des propriétaires occupants.
Oui.
Je préfère ne jamais généraliser, puisque voilà.
Il y a des très riches, des ultra riches et puis des petits propriétaires. Mais ce que je peux vous dire, si je peux me permettre de vous le dire, l'information, et je sais qu'elle est corroborée par les chiffres, il y a beaucoup plus de petits propriétaires occupants et propriétaires bailleurs que de gros propriétaires bailleurs. Quand même le dire, hein, voilà.
Ah, ça, c'est une réalité.
Le coefficient de détention en France sur un bien immobilier, je ne sais pas si vous le savez, il est de 1,1. Donc, en général, on est propriétaire de sa maison et basta. On est d'accord là-dessus.
Alors, je crois qu'à Paris, c'est un peu différent.
À Paris, c'est un peu différent.
Non, je parlais du moyen national. Voilà.
C'est plutôt 1,5 à Paris que 1,1. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont propriétaires d'un appartement,
c'est
parfois de 2, mais jamais de 15.
Vous restez avec nous, Olivier Safart, puisque on peut pas se quitter, les amis, sans interviewer Henri Buzicazo, qui est donc la personne incontournable dans nos marchés immobiliers. Il est d'ailleurs dans la salle, il nous attend, pour évoquer donc effectivement ce sujet. Je voudrais vous remercier, Hélène Le Gall. Je sais que vous êtes toujours extrêmement prompte à répondre à nos questions. On est ravis, en tout cas, de vous avoir reçu. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ADIL, donc l'agence départementale
d'information sur le logement. Celle de Paris et celle du Val-de-Marne.
Voilà, celle de Paris et du 94. Vous pilotez quand même des gros départements, quand même. C'est plutôt intéressant. Merci à vous et j'espère que vous reviendrez avec grand plaisir sur le plateau de Radio Immo. Merci Olivier Safart et
merci
avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec Henri Buzicazo.
Les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Accès au Drieux Combalusier et Bâti Santé sur Radio Immo.